Le Maghreb décrypté avec Hassni Rabidi.
Merci de nous rejoindre sur Radio Orient avec vous, Nadia Benchekh. Un nouvel épisode du Maghreb décrypté qui nous mène en Libye, où la question migratoire est en train de devenir un sujet de très forte tension politique et populaire. À Tripoli, ces derniers jours, des manifestants se sont rassemblés devant les bureaux du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un risque d'installation durable des migrants dans le pays. Les agences de l'ONU, elles, démentent clairement toute politique de naturalisation et de réinstallation en Libye, mais le débat ne s'arrête pas là, car derrière cette polémique, il y a une réalité plus lourde, la présence de centaines de milliers de migrants sur le sol libyen, l'extrême fragilité de l'État, les violences subies par les exilés et en arrière-plan, le durcissement des politiques européennes de retour. Pour en parler, je reçois Hassni Rabidi, spécialiste du monde arabe. Bonjour.
Bonjour Nadia Benchekh.
Vous dirigez, je le rappelle, également le Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen basé à Genève en Suisse. Hassni Rabidi, avant d'entrer dans le détail, il faut peut-être commencer par le climat actuel. Pourquoi la question migratoire prend-elle aujourd'hui en Libye une tournure aussi sensible, presque aussi inflammable ?
Oui, d'abord parce que, vous l'avez dit, on a cette division du gouvernement. Et on a une question de réfugiés venant surtout, et des migrants venant des pays du Sahel, des pays voisins comme l'Égypte. Et c'est devenu un enjeu de politique nationale. Et face finalement à deux gouvernements, deux récits officiels, toute information, même si elle n'est pas avérée, comme cette accusation adressée à l'encontre de l'Haut-Commissariat des réfugiés, elle prend une tournure politique très dangereuse.
Alors, ce qui frappe, c'est que cette tension part d'une idée très discutée publiquement, mais que les organisations internationales réfutent. Les agences onusiennes démentent toute politique de naturalisation ou de réinstallation des migrants en Libye. Alors, comment expliquer que cette peur d'un settlement prenne malgré tout autant d'ampleur dans le débat public libyen ?
D'abord parce que les Libyens, ils sont dépourvus d'une base de données. Ils n'ont pas d'informations sur le nombre de migrants ou d'étrangers qui sont établis sur le territoire libyen. C'est presque inédit. Enfin, on est incapable aujourd'hui de donner un chiffre. Ça tourne entre 900 000 et 1 million à peu près. Qui se sont répartis sur environ 100 localités. Et vous avez environ plus de 20 nationalités, ce qui est très, très, très important. Et le deuxième problème, c'est que, bien sûr, le HCR, comme l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, elles sont habilitées, finalement, à produire des papiers de documents, mais d'identification et pas de résidence, parce qu'elles n'ont pas le droit, et à inscrire et enregistrer ceux et celles qui se présentent au guichet de l'HCR. C'est pour leur protection, parce que l'HCR est, à ce mandat des Nations Unies, de la protection des requérants d'asile ou des migrants dans une situation irrégulière. Pour une partie de Libyens, en dehors de tout de discours officiel, c'est une étape avant la régularisation, on n'est pas encore dans la naturalisation, la régularisation des Libyens. Et bien sûr, vous avez le nombre de Libyens qui n'est pas très important aussi. Si on part sur ce projet-là qui est injuste, de régularisation de 1 million d'étrangers, donc ça fait une véritable bombe politique, et économique et sociale.
Et c'est là justement que le débat devient plus intéressant parce qu'il dépasse très vite la question de la rumeur elle-même, puisque c'est finalement une rumeur, cette information comme quoi les migrants vont être régularisés et peut-être même naturalisés. Au fond, est-ce que les Libyens ne réagissent pas moins à un programme avéré qu'à une réalité déjà très lourde, celle d'une présence migrante massive dans un pays qui peine lui-même à se stabiliser ?
Oui, la question quand la Libye avait des moyens économiques. L'ancien régime de Mouammar Kadhafi avait même banni les frontières, souvenez-vous. Il a détruit les postes frontières en disant que la Libye appartient aux Africains. Mais évidemment, la guerre civile qui a suivi la chute de Kadhafi, et surtout l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest, a privé la Libye finalement de forces de sécurité, des forces, donc de douanes, des polices de frontières, ce qui fait que la Libye reste toujours passoire. Hormis, bien sûr, les frontières nord, on reviendra sur peut-être le rôle de l'Europe. Donc, face à cette situation déjà de l'absence de la démission des autorités, en tout cas au niveau des frontières, mais aussi, vous savez que la Libye n'a pas de politique migratoire. En fait, il n'existe pas une politique, ni à l'Est ni à l'Ouest, sur la question, par exemple, comment peut-on gérer la question des étrangers. Quel est le statut d'un étranger en Libye, évidemment, qui est entré en Libye illégalement? Ça n'existe pas. Face, bien sûr, à ce flou-là, l'activité de l'HCR et surtout de l'Union européenne, qui a réussi à signer, grâce aux bonnes relations entre la Libye et l'Italie, des accords très importants de rétention. La Libye, vous savez, pour les organisations de droits de l'homme, elle est devenue un centre de tri humanitaire. Évidemment, pour les Libyens, c'en est trop. Pour les Libyens, c'est une grande partie des Libyens, ceux qui ont manifesté, ils disent qu'il y a un complot contre la Libye, puisqu'ils veulent vraiment qu'on retienne tous les migrants et qu'on leur donne des papiers de régularisation.
Alors justement, vous l'avez évoqué, cette inquiétude intérieure ne peut pas se comprendre sans regarder aussi ce qui se passe du côté européen, le durcissement des politiques migratoires en Europe et notamment l'idée de centres situés hors de l'Union pour accueillir certains migrants déboutés, alimente-t-il en Libye la peur d'être transformé justement en zone de rétention à long terme ?
Absolument. La Libye entretient d'excellentes relations avec l'Europe. Et on a bien vu d'ailleurs que les autorités libyennes sont rarement critiquées par Bruxelles. Parce que la Libye est perçue aujourd'hui comme un État qui collabore, soit à l'Est ou à l'Ouest, qui collabore avec les autorités européennes en matière de lutte contre les migrants. Mais vous avez aussi d'excellentes relations entre Giorgia Meloni, qui a fait de l'immigration un sujet important pour sa campagne électorale, la première et la deuxième, et qui entretient d'excellentes relations avec à la fois le gouvernement de Beïba, mais aussi des bonnes relations avec Haftar à l'Est. Pourquoi ? Parce que, en effet, la Libye collabore avec les Italiens en matière de rétention des migrants. Vous avez des nationalités, par exemple, comme l'Égypte, vous avez aussi du Tchad, vous avez le Soudan, et c'est vrai que là, c'est un sujet important. C'est-à-dire que la Libye est entourée, finalement, elle est dans un environnement qui est instable, qui fournit, finalement, un nombre important de migrants. Est-ce que la Libye est un pays d'accueil ou un pays, finalement, de transit ? Elle est les deux. Elle est les deux, et c'est pourquoi l'Union européenne mise sur le rôle de la Libye pour retenir justement ces vagues migratoires en direction de l'Europe. Mieux que ça, c'est-à-dire ce que veut l'Union européenne, non seulement lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi pour recevoir pour un autre pays ceux qui sont, comme vous le savez, ça commence avec le Royaume-Uni et d'autres pays, c'est-à-dire envoyer en Libye ceux qui sont été, comme vous l'avez dit dans votre question, déboutés ou ceux qui résident dans une situation irrégulières, qui sont d'autres pays, qui ne sont pas libyens, oui, mais les envoyer en Libye parce que le gouvernement libyen est prêt à collaborer avec l'Union européenne.
Une façon de centre de stockage, d'avoir un centre de stockage en Libye.
C'est-à-dire, oui, exactement. C'est, les organisations humanitaires parlent vraiment d'un centre de le centre de tri qui n'est pas du tout humanitaire. Mais on sait que la question de la traite des humains, elle est terrible en Libye, avec des organisations entre l'Europe et la Libye et au-delà, qui organisent justement non seulement les conditions terribles dans lesquelles vivent ces migrants, et c'est pourquoi l'HCR se défend en disant nous on veut d'abord protéger ceux qui sont ici pour éviter à ce qu'ils vivent le calvaire justement que vivent certains étrangers. On a vu des médias internationaux qui ont fait l'état justement de cette situation.
Alors justement dans cette discussion, il y a un risque, celui d'oublier complètement la situation des migrants eux-mêmes. Comment tenir ensemble les deux réalités ? D'un côté, la peur libyenne d'une installation durable, de l'autre, les violations massives, les trafics et les violences que subissent justement les migrants en Libye.
Les témoignages sont glaçants concernant le traitement inhumain que subit les migrants par des mafias, tout simplement, par des grands groupes. D'ailleurs, ça commence du sud jusqu'à la frontière européenne. Et parfois, ce sont justement des groupes plutôt européens qui organisent ce transfert de la Libye ou de certains pays africains en traversant la Libye et de la Libye vers l'Union européenne. Et c'est un commerce d'ailleurs qui est lucratif. C'est un commerce lucratif. Il ne faut pas oublier qu'il y a des groupes aussi à l'intérieur de la Libye, des groupes libyens qui s'enrichissent avec justement la traite des humains. Et c'est, comme vous le savez, c'est un crime aux yeux du droit international. L'HCR essaie de faire. L'HCR fait un excellent travail en matière de protection malgré les pressions. Vous avez vu des manifestations contre justement l'HCR. Ils ont certains Libyens en colère ont encerclé le bureau de l'HCR. L'Organisation internationale de migration aussi essaye de faire ce travail dans ce sens-là. Déjà, d'abord, de prendre connaissance et recenser ceux qui habitent en Libye, mais tous ont peur d'aller dans les bureaux des organisations internationales pour demander de l'aide, en tout cas, concernant leur situation qui se détériore.
Pour finir, Hasni Habidi, que dit ce débat de la place nouvelle de la Libye dans l'espace euro-méditerranéen et maghrébin? Un pays de transit, oui, mais qui redoute désormais d'être enfermé dans un rôle de rétention durable pour le compte des autres?
C'est une excellente question parce que, hélas, les gouvernements en Libye, soit à l'est ou à l'ouest, découvrent finalement qu'ils ont un autre atout. Ils ont un atout, c'est le pétrole et le gaz. La Libye est dans une position géostratégique, mais elle a un autre atout que les Turcs, d'ailleurs. La Turquie a bénéficié, comme vous le savez, de ce pacte migratoire, environ 5 milliards pour freiner l'arrivée des migrants venant des pays de l'Est vers l'Europe. Et les autorités libyennes, aujourd'hui, découvrent qu'ils ont un atout de négociation important, à la fois pour bénéficier d'une certaine acceptabilité européenne, pour dire « nous sommes vos meilleurs alliés contre l'immigration clandestine », et monnayer justement cette aide donnée aux Européens. On sait que les Européens aujourd'hui, le premier enjeu pour eux, c'est la question des migrants, la question de cette mobilité irrégulière. Et les Libyens, hélas, utilisent cette carte-là en dépit des critiques concernant la situation humaine de ces migrants.
Merci Hasni Habidi d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, Nadia Benchir.
Vous êtes, je le rappelle, spécialiste du monde arabe et dirigez le CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, en Suisse. C'est la fin de cet épisode que vous pouvez retrouver en podcast sur le site Radio Orient et Spotify. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.
C'était le Maghreb décrypté avec Hasni Rabidi.